France Musique.
Deux invités, l'un va arriver dans un instant, l'autre est déjà là. Bonjour Tanguy de Villancourt.
Bonjour Jean-Baptiste.
Un nouveau disque qui sortira, alors qui est déjà disponible à la Folle Journée. Il faudra attendre quelques jours jusqu'au 7 février pour vous qui nous écoutez, en tout cas qui n'êtes pas à Nantes. Disque consacré aux Bagatelles de Beethoven qui vient de paraître chez Mirare. Et puis des concerts, alors pas un concert, pas deux concerts, 9 concerts en quelques jours ici à Nantes à la Folle Journée. C'est le rythme habituel pour un musicien?
Alors ici à la Folle Journée, oui, c'est vrai que ça fait plusieurs années que je viens et à chaque fois c'est très intense. Mais voilà, moi j'adore ça parce qu'on est plongé dans un bain pendant quelques jours et on enchaîne les concerts et c'est avec plein de programmes différents. Donc on n'a pas le temps de stresser. Du coup on est bien sur scène et le public est tellement enthousiaste que on est toujours très bien ici à la Folle Journée.
Vous avez le temps d'aller écouter d'autres concerts, d'autres musiciens, des copains?
Bah oui, le programme est tellement magnifique qu'on a envie d'aller écouter presque tout. J'ai déjà eu la chance d'aller écouter le concert de Félicien Brut qui est accordéoniste avec le quatuor Hermès hier, magnifique.
On diffusera en direct demain à 19h.
Voilà, bah il faut écouter parce que c'est fabuleux. Et puis j'espère bien sûr d'ici dimanche écouter d'autres amis et collègues.
Vous avez combien de programmes différents? Combien de concerts? Bah il y a des Bagatelles bien sûr.
Voilà, alors là il y a 3 programmes différents, donc en effet l'intégrale des Bagatelles et puis je joue également une transcription du final de la 9e de symphonie de Beethoven. Une transcription de Wagner pour piano, chœur et soliste. Et donc c'est très intéressant aussi de découvrir des, non pas les œuvres originales de Beethoven, mais également des transcriptions comme celle-ci.
Transcription qu'on pourra entendre sur France Musique décidément demain à 15h. Vous venez depuis combien de temps ici à Nantes à la Folle Journée, Tanguy de Villancourt?
Je pense que c'est ma 5e ou 6e. Voilà, les premières fois c'était grâce à Claire Désert, puisque j'étais son élève au Conservatoire de Paris.
Et fidèle de la Folle Journée. Pianiste,
oui,
chambriste.
Fabuleuse pianiste et chambriste et fabuleuse professeure. Et voilà, elle a toujours à cœur de faire découvrir à René ses élèves qu'elle apprécie. Et donc j'ai beaucoup de gratitude pour elle. Elle m'a fait rencontrer René. Et puis,
René Martin, René créateur et le directeur artistique de la Folle Journée. Bon, nous sommes à Nantes donc jusqu'à 9h et nous serons à Nantes demain et dimanche toute la journée pour des concerts en direct, enregistrés, des émissions. Les Bagatelles, c'est le nouveau disque de Tanguy de Villancourt. On en écoute. Il y a 32 bagatelles, on va expliquer après. 32 bagatelles, comme il y a 32 sonates d'ailleurs.
Oui, c'est drôle en comptant, parce qu'il y a les cycles de bagatelles, puis il y a des œuvres des bagatelles qui n'ont pas été éditées du vivant de Beethoven, mais en tout, il y en a bien 32. Donc autant que les sonates, évidemment, elles sont beaucoup plus courtes, donc elles tiennent sur un seul disque. Mais voilà, elles sont toutes magnifiques.
Elles ont le format radio parfait pour le matin. 3 minutes, 2 minutes. Tiens, on écoute celle-ci.
Thank you.
L'une des sept bagatelles de l'opus 33 de Beethoven, c'est la cinquième, Allegro Man Antropo, extrait du disque des bagatelles de Tanguy de Villancourt, disque qui sort dans quelques jours. Tanguy de Villancourt, Beethoven, il y a des disques qui nous arrivent tous les jours, là, depuis des mois déjà, et vous, vous avez choisi ces bagatelles. Pourquoi, comment, depuis quand?
Alors, j'ai toujours apprécié ces bagatelles de Beethoven qu'on connaît moins, qui sont beaucoup moins jouées d'ailleurs. Et voilà, je m'étais dit que pour l'année Beethoven, ça sortirait un peu des sentiers battus que de les enregistrer, voilà, pour proposer aux, aux mélomanes de les découvrir ou de les redécouvrir et de les réunir, voilà, en un disque. Je trouvais que, voilà, comme ce sont des cycles, elles s'enchaînent admirablement, et donc j'étais ravi de les réunir.
En fait, il en a composé tout au long de sa vie.
Exactement. Voilà, il y a l'opus 33 qui est le premier cycle, qui sont issus d'esquisses qu'il a écrites assez jeune, et puis ça va jusqu'à l'opus 126, qui sont donc les dernières pièces pour piano éditées, en tout cas du vivant de Beethoven, et qui sont donc postérieures aux trois dernières sonates, opus 109, 110, 111. Et donc elles vont presque encore plus loin que ces trois dernières sonates, et elles ouvrent vers l'écriture des derniers quatuors. Donc je trouve qu'elles sont pour cela absolument exceptionnelles.
Et puis il y en a qui sont sans numéro d'opus, et il y en a une qui est, alors promis, on l'écoutera pas, qui est une scie musicale, c'est de la lettre à Elise, qui est
une des bagatelles, voilà, exactement. Et voilà, celle-ci, on la connaît tous, et donc voilà, elle s'insère dans le disque. Et voilà, toutes les autres sont aussi belles que la lettre à Élise.
Pourquoi ce mot de bagatelle d'ailleurs? Parce qu'il y a un côté un peu comme ça, léger, qui peut paraître une petite chose.
Exactement, Beethoven d'ailleurs les appelait les Kleinigkeiten, ces petites choses. Et en effet, voilà, elles sont de format très court, et elles ont souvent cette tendresse, cette pureté, ce raffinement, qu'on retrouve pas toujours d'ailleurs chez Beethoven, puisqu'on le connaît plutôt pour ses sonates, voilà, qui sont développées, qui sont très architecturées. Et ces bagatelles, on découvre une autre facette de Beethoven qui est en effet plus pure, plus humaine parfois, et je les trouve très complémentaires de son corpus de sonates.
Des miniatures, on en écoutera tout à l'heure Tanguy de Villancourt. Je crois que vous connaissez l'invité, notre deuxième invité qui vient de nous rejoindre, Pascal Roffet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes depuis 2014 le directeur de l'orchestre, 2013, l'Orchestre National des Pays de la Loire. Vous étiez hier soir d'ailleurs en concert ici à la Folle Journée avec votre orchestre, avec le chœur d'Ekaterinbourg, qui était la 9e de Beethoven. Tout s'est bien passé.
Et le chœur de l'ONPL, en fait. C'était une fusion de deux chœurs pour cette occasion-là. Puisqu'il est question d'humanité, c'était naturel de le faire.
La Folle Journée pour l'Orchestre National des Pays de la Loire, c'est un événement qui scande la saison musicale.
Alors, c'est un événement particulier. C'est vrai que la Folle Journée, c'est une densité pendant un week-end, pendant quelques jours. L'ONPL, lui, est présent sur toute la saison. Hein. Nous avons un public également nombreux sur toute la saison, puisque nous avons près de 8000 abonnés à l'ONPL. Donc, chaque programme est joué deux fois à Nantes, deux fois à Angers. Nous avons vraiment un très grand public, un très grand auditoire. Et ça, c'est une chance pour cet orchestre. Mais effectivement, dans le cadre de la Folle Journée, c'est encore quelque chose de différent. C'est important que l'ONPL soit partenaire privilégié de la Folle Journée, et nous nous attachons à travailler avec René Martin régulièrement, dès que l'orchestre le peut, pour être présent au cours de la Folle Journée. Oui.
ONPL, Orchestre National des Pays de la Loire, avec ces deux villes sur les bords de Loire que sont Nantes et Angers, mais toute la région aussi, vous jouez
ailleurs. Nous drainons une grande partie de la région, puisque la semaine dernière, dans le cadre de la Folle Journée en région, ce qui est le cas d'ailleurs pendant nos séries d'abonnements tout au long de l'année, nous jouons, ça peut être au Sable d'Olonne, à La Roche-sur-Yon, enfin, nous drainons toute la région. C'est la mission d'un Orchestre National de Région également.
C'est la mission d'un orchestre aussi d'enregistrer régulièrement.
Oui, alors on a des plannings très compliqués, justement de par la bipolarité de l'orchestre. C'est l'orchestre a une masse de travail assez lourde, et c'est pas toujours facile de trouver des créneaux. Et je cible très particulièrement les enregistrements que je veux faire avec cet orchestre. Et nous avons encore de nombreux projets, mais je suppose que vous avez parlé de celui qui vient de sortir.
De la musique française, Albert Roussel, Paul Dukas. On va en parler. On écoute un extrait.
Volontiers.
Ouais. On commence par le tube.
Thank you.
L'apprenti sorcier, oui, ça surprend à la fin. L'apprenti sorcier de Paul Dukas. Pascal Rofay à la tête de son orchestre, l'Orchestre National des Pays de la Loire. C'est un disque Bis Records qui vient de sortir, avec également Paul Dukas, Paulieu, comme on en parle dans un instant, et Albert Roussel, Le Festin de l'Araignée. On le disait, c'est important qu'un orchestre enregistre régulièrement. Depuis que vous êtes à la tête, depuis 2013, de cet orchestre, vous enregistrez, Maestro Rofay, de la musique française.
Oui, alors pas que, c'est pas seulement par dogmatisme, mais c'est vrai que d'abord il y a tout un répertoire qui est parfois pas sous-exploré, mais en tout cas pas suffisamment exploré. Vous faites peut-être référence à un disque que nous avons enregistré d'œuvres de jeunesse d'Henri Dutilleux.
Pascal Dussapin également.
Pascal Dussapin, alors parce que là pour le coup je suis dogmatique, j'ai des compositeurs en résidence à l'ONPN, nous avons eu Pascal Dussapin, Kaya Sario et maintenant Michael Jarrel, que nous enregistrons au passage. Il y a un disque en préparation consacré à trois œuvres de Michael Jarrel avec Renaud Capuçon et Tabea Timmerman. Voilà, donc c'est effectivement, j'ai des perspectives avec l'orchestre sur ce sujet. Nous travaillons avec le label BIS depuis mon arrivée à l'ONPL et encore pour quelques années. Oui, la musique française parce que c'est l'ADN de cet orchestre, c'est l'ADN d'un orchestre français, c'est la culture, en tout cas c'est ce que j'essaie de faire avec l'ONPL.
Il sonne très français cet orchestre.
Alors, vous savez, c'est toujours difficile de dire. Les orchestres anglais jouent très bien la musique française également. voilà, chaque orchestre a ses couleurs, ses spécificités, et c'est ça qui est important d'ailleurs de ne pas chercher à gommer. Chaque orchestre doit avoir ses caractéristiques. Ça dépend aussi des individus, parce qu'un orchestre c'est quand même un groupe d'individus dont chacun a sa personnalité. Mais il est vrai que on sait bien que les bois à la française ont leur couleur, leur transparence, leur qualité. Même chez les cuivres également, il peut y avoir de la puissance, mais à la fois de la luminosité, de la transparence. C'est quelque chose que nous travaillons. L'ONPL s'est beaucoup renouvelé depuis 7 ans, puisque j'ai recruté quasiment 36 musiciens sur 97 depuis que je suis là. Donc il y a eu un vrai renouvellement. Et donc c'est un travail de tous les jours, en fait, de façonner la couleur et le timbre de cet orchestre.
Vous avez changé ses couleurs en 7 ans?
Je ne sais pas si j'ai changé. Mais forcément, un directeur musical a un impact sur le groupe avec lequel il travaille. Ça changera probablement avec son successeur plus tard. Mais je pense qu'en tout cas, j'ai réussi à façonner quelque chose dont je suis assez fier pour l'instant.
Et notamment la présence de la musique de compositeurs vivants. Ici, ce programme Roussel Dukas avec l'apprenti sorcier qui tourne, qui est au cœur du disque. Et puis ce Polyeucte dont on parlait, totalement inconnu.
Alors, qui est une œuvre bien moins connue, qui n'est pas une œuvre inconnue, mais qui est une œuvre bien moins connue. C'est un Dukas d'avant l'apprenti sorcier, je dirais. Mais c'est très étonnant parce qu'on voit une parenté évidente avec Wagner. C'est très étonnant. On voit comment les choses se sont passées de la fin du 19e siècle au début du 20e siècle. Et en ça, je trouve que cette œuvre est très intéressante. Et c'est une œuvre que j'affectionne particulièrement, et qui n'est pas très souvent jouée, que les orchestres connaissent pas très bien d'ailleurs. Et donc, c'était un vrai plaisir de l'enregistrer, oui.
L'ouverture de Polyeucte sur une tragédie de Corneille qui ouvre ce disque. À découvrir sur ce disque, donc, Bis Records, Pascal Rofay, une musique wagnérienne qui va intéresser le wagnérien Tanguy de Villancourt qui est face à vous et qui va me voler probablement le disque. Ça vous intéresse?
Ah bah oui, je vais découvrir ce Polyeucte. Il faut absolument que je l'écoute.
Vous connaissez Pascal Rofay, Tanguy de Villancourt?
Alors, j'ai eu la chance de bénéficier de vos conseils à une académie avec l'Orchestre de Chambre de Paris, de jouer dirigé.
Oui, tout à fait, voilà, je me souviens.
On dirigeait le concerto du piano.
Ah, c'est vrai.
Pascal était venu.
Mais on n'a jamais travaillé ensemble.
Mais rien n'est anodin. Votre rencontre ce matin, ce 31 janvier. Tanguy de Villancourt, d'ailleurs, petite parenthèse, ça vous titille, ça vous travaille, l'orchestre, le diriger, le jouer, diriger du piano.
Oui, tout à fait. Alors, j'ai quelques expériences que, oui, j'ai beaucoup aimé diriger du piano et puis quelques expériences aussi de direction. J'ai eu la chance d'étudier au Conservatoire de Paris.
Avec Alain Altinoglu.
Voilà. Mmh. Et donc, oui, je pense m'y remettre un jour ou l'autre.
Parce qu'elle refait d'ailleurs un pianiste qui dirige du piano, ça vous choque pas?
Rien ne me choque, vous savez, du moment qu'on fait de la musique, je suis très ami avec François-Frédéric Guy, qui est un des champions du moment du jouer dirigé. Il était hier soir d'ailleurs à notre concert. Lars Vogt également, d'ailleurs, on en a discuté tous les trois après le concert, et je ne me suis pas plaint du fait qu'il joue sans chef d'orchestre.
Tanguy de Villancourt, vous êtes le chef d'orchestre du disque Bagatelle qui sort dans quelques jours. Je vous propose, alors on le disait, il y a plein de petites pièces, mais je vous propose qu'on écoute plusieurs pièces enchaînées. Là, c'est un autre corpus, un autre moment de la vie de Beethoven. Si je retrouve, c'est l'opus 119, c'est ça ? enchaîner quelques-unes des bagatelles de l'opus 119 sur le disque de Tanguy de Vidiancourt, bagatelle de Beethoven, donc les 32 bagatelles, comme il y a 32 sonates, on disait des miniatures, il en a écrit tout au long de sa vie, là, quand on écoutait avec Pascal Roffé, on se disait, oh, là, ça pourrait être presque du Chopin, oh, presque du Schubert. Il expérimente particulièrement dans ses bagatelles, Tanguy de Vidiancourt.
Oui, et notamment dans ce cycle des opus 119, il va vraiment à l'essentiel, il expérimente beaucoup, il y a des effets de tri et puis d'arpèges complètement incroyables, et puis surtout les pièces sont très très courtes, donc là la dernière qu'on vient d'écouter dure à peine 15 secondes quoi, donc c'est vraiment un Beethoven qui cherche et qui voilà, c'est évidemment dans les dernières œuvres, et donc il expérimente énormément.
Et en même temps, il y a des moments où on a l'impression d'entendre les premiers accords de la sonate Waldstein. Enfin, il y a comme des prémices.
Oui, évidemment. Oui,
des
oui,
premiers
oui.
jets.
Complètement. Oui, non, c'est un laboratoire assez exceptionnel, ces bagatelles.
Les sonates, elles vous font peur ou c'est quoi? C'est une façon de faire un pas de côté par rapport au monstre Beethoven? Est-ce que Beethoven fait peur d'ailleurs quand on est musicien?
En général, on en travaille depuis assez jeune du Beethoven, donc non, ça fait, enfin moi c'est pas un compositeur qui me fait peur, et j'ai joué déjà beaucoup de ses sonates, donc je compte peut-être d'ici quelques années aller au bout des 32, mais voilà, en tout cas j'en ai...
Vous en avez combien pour l'instant?
Je crois, mais j'ai compté, parce que cette année je joue pour la première fois la Hammerklavier, donc qui est quand même la plus difficile et puis la plus longue de ses sonates, donc je crois que j'arrive à 16, c'est donc le semi-marathon, voilà.
D'ailleurs Beethoven c'est vraiment un compositeur que vous avez découvert très très jeune.
Oui, très très jeune, et puis je me souviens, c'est une des premières partitions que j'ai demandé à mes parents d'acheter, les deux volumes des 32 sonates, et je les ai voilà, déchiffrés hein, très mal, mais c'est vrai que voilà, j'étais très curieux de découvrir toutes ces sonates. Elles sont toutes uniques, c'est-à-dire qu'à chaque fois elles apportent une nouvelle pierre à l'édifice beethovenien et à l'édifice de la musique occidentale.
Le disque des bagatelles sort chez Mirare le 7 février, vous l'avez enregistré d'ailleurs très récemment, ou ça?
Alors j'ai eu la chance de l'enregistrer dans les Dolomites, dans un lieu magnifique qui est la salle Gustav Mahler, puisque c'est une salle qui est juste à côté de la cabane où Gustav Mahler a écrit sa 9e symphonie et puis sa 10e qui est inachevée. Et donc c'était une salle absolument magnifique, l'acoustique superbe et un Steinway que j'ai beaucoup apprécié également. Donc voilà, on était plongé dans les Dolomites pendant quelques jours.
Pour ces 32 bagatelles. Pascal Roffé, est-ce que Beethoven fait peur aux musiciens de l'Orchestre National des Pays de la Loire? Est-ce que c'est le pain quotidien? Est-ce que c'est l'alphabet, comme je crois que c'est Philippe Jordan qui nous disait à ce micro que pour bien que chef d'opéra, jouer les symphonies de Beethoven, ça fait partie du travail quotidien d'un musicien d'orchestre?
Oui, c'est un tout petit peu les gammes, effectivement, ça fait partie des socles sur lesquels tout travail d'orchestre se repose. Et puis c'est même plus que ça, c'est-à-dire que Beethoven, c'est une perspective sur tout ce qui suit. C'est quelqu'un qui a poussé les murs, qui a ouvert les portes, qui n'a fait que ça pendant toute sa vie. Et c'est d'ailleurs intéressant, quand on écoute ces bagatelles, de voir que même dans les formes courtes, parce qu'en fait, il n'a eu de cesse que d'essayer d'agrandir la forme, que ce soit dans les sonates ou dans les symphonies. Mais même dans les formes courtes, la proposition est immense. Oui, évidemment, pour nous, c'est quelque chose de permanent, quelque chose, les symphonies, on y revient régulièrement, toujours. Ça fait énormément de bien à l'orchestre de les repratiquer. La semaine dernière, nous avons joué la 5e pour la folle journée en région. Ça faisait quelque temps que l'orchestre n'y avait pas touché. Eh bien, ça remet beaucoup de choses en place. Ça permet de se réécouter différemment, parce que parfois on fait des grands formats. Quand on joue Daphnis ou le Sacre, vous êtes dans un autre format, si vous voulez. Et là, ça permet de retrouver un petit peu un esprit chambriste en orchestre. Et c'est très intéressant.
Et vous, comme hier soir, comme demain après-midi, comment le chef sort d'une 9e?
Heureux. Il sort heureux et enthousiaste, comme souvent, surtout sur des œuvres comme celle-ci. C'est un monument de l'histoire de la musique. Moi, je me souviens, c'est quasiment la première partition d'orchestre que j'ai jamais achetée de ma vie. Ayant commencé la musique tard, j'avais tout à découvrir. Et je me souviens, mes trois premières partitions d'orchestre, c'était la 9e, le Sacre du Printemps et le Marteau sans maître. Vous voyez. Ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Je sortais de la flûte de Pan avec ces trois partitions-là. Je les ai dévorées pendant 15 jours.
La flûte de Pan, c'est le magasin de musique.
Oui, pardon. Rue de Rome.
Et alors, le festin de l'araignée dans tout ça, j'ai lu que vous disiez que c'était une partition de chef d'orchestre. Qu'est-ce que ça veut dire?
Non, alors c'était un peu une boutade. Non, c'est une partition de classe de direction d'orchestre. C'est-à-dire que très souvent, c'est une œuvre qui est travaillée par les jeunes chefs dans la classe de direction. Et moi, et de fait, c'est comme ça que j'ai abordé cette partition la première fois dans la suite pour orchestre. Là, il s'agit du ballet complet. Mais donc j'ai une affection particulière parce que ça m'a reprojeté dans les premiers cours de direction d'orchestre que j'ai pu prendre à l'époque d'ailleurs avec Pierre Dervaux, je me souviens, à l'école normale, puis au Conservatoire de Paris avec Jean-Sébastien Béraud. Donc voilà, c'est comme une petite madeleine de chef d'orchestre, mais à la fois c'est une musique qui est assez jubilatoire parce qu'elle est très très riche en détails et j'aime beaucoup le détail. J'ai une oreille assez introspective pour ce qui est de l'orchestre et j'aime aller fouiller, aller chercher les couleurs, aller chercher les détails, et Dieu sait qu'il y en a dans cette partition.
Pierre Dervaux, d'ailleurs, qui a fondé cet orchestre
tout
national
des
Pays de la Loire,
tout à fait.
Si je ne m'abuse.
Oui, oui, absolument, c'est assez drôle, la perspective est amusante.
Tanguy de Billancourt, vous, en direction d'orchestre, vous l'avez travaillé, ce festin d'araignée?
Non, du tout, non, ah. Non, c'est aussi une œuvre que je dois découvrir.
Eh bien, voici une petite découverte, en tout cas une pièce, c'est la danse de l'araignée de l'Orchestre National des Pays de la Loire, et dirigée par notre invité Pascal Roffet. La danse de l'araignée, extrait de ce festin de l'araignée d'Albert Roussel, l'Orchestre National des Pays de la Loire, dirigé par Pascal Roffet. Un disque bis, Pascal Roffet, le disque, il sort, on en parle. Les concerts, la 9e en ce moment, et concert demain à la Folle Journée de Nantes. Mais il y a aussi, vous en avez parlé, toute cette saison symphonique et un peu lyrique, on va en dire un mot. D'abord, symphonique, comment vous l'avez conçue, la saison 2019-2020?
Alors, en fait, les deux saisons, la saison dernière et celle-ci, ont été deux saisons délibérément pensées sans thématique générique. Parfois, les orchestres on s'enferme un tout petit peu trop, je trouve, dans une thématique. On dit, voilà, il faut trouver une thématique pour la saison. Et puis, on essaie de tout faire rentrer à l'intérieur. Là, je dirais que j'ai plutôt privilégié les contacts avec les artistes invités avec lesquels nous aimons travailler. Maintenant, ça fait un certain temps que je suis là. Donc, il y a une fidélité qui s'est créée avec un certain nombre d'artistes. Et je pense que c'est plutôt une saison basée sur le partage d'envie commune avec les artistes qui aiment venir travailler avec l'ONPL.
Il y a eu Renaud Capuçon, vous en avez parlé.
Bien sûr, Jean-Guillaume Keras, il y en a d'autres.
Évidemment. Antoine Tamestit, prochainement.
Antoine Tamestit, tout ça sont des vieux camarades. Enfin, vieux, je parle en termes de temps de connaissance, c'est pas d'âge. Voilà. Et ces gens-là sont des amis avec qui j'aime travailler, avec qui l'orchestre aime travailler et qui aime travailler avec nous.
Et puis Christian Zimmermann, puisque Beethoven, on n'y échappe pas, ce sera en juin, avec l'Empereur, le 5e concerto et la 5e symphonie. Et puis il y a des théâtres à Angers, à Nantes, Théâtre Gralin. Comment aujourd'hui l'Orchestre National des Pays de la Loire est investi dans cette mission lyrique? C'est moins qu'avant quand même.
Oui, alors en fait l'Orchestre National des Pays de la Loire est une... le mot est réducteur, mais est prestataire de service pour Angers Nantes Opéra. C'est-à-dire que la maison Angers Nantes Opéra nous propose de faire un ou deux opéras dans la saison. Nous sommes partenaires privilégiés, effectivement. Mais disons que je n'ai pas la main sur la programmation et sur les propositions qui sont faites. C'est Alain Surance, qui est le directeur de la maison, qui lui fait sa programmation. Mais évidemment, moi je suis très heureux de proposer les services de l'orchestre, d'autant que, comme tout le monde le sait, c'est très bénéfique pour un orchestre de faire de la fosse.
D'ailleurs, vous serez en fosse prochainement pour une pièce de Jarel.
De Michael, oui, Siegfried Nocturne, et même l'année prochaine pour... Alors, ce sont des opéras de chambre, ce sont des œuvres dans le cadre de la résidence avec Michael Jarel. Vous savez, c'est un compagnon de longue date, Michael, ça fait 40 ans qu'on se connaît, enfin, peut-être pas 40, mais au moins 35. Et voilà, c'est comme je vous le disais pour la saison, c'est un partenariat privilégié avec des amis, avec des gens avec qui j'aime travailler, avec les gens avec qui je partage les mêmes envies musicales.
Je signale d'ailleurs qu'en ce moment, à Nantes, à l'Opéra Gralin, il y a l'inondation de Phidias qu'on avait vue à l'Opéra Comique.
Tout à fait, dont nous avions joué une pièce au Festival Musical lorsque l'orchestre y était allé il y a 2 ou 3 ans.
Tanguy de Vihiencourt, vous êtes amateur, plus qu'amateur, vous avez été chef de chant sur des productions lyriques. Vous êtes
sur le Siegfried Nocturne, qui a été créé à la Comédie de Genève, ah, avec Boscovus.
Je ne savais pas.
Voilà, oui. Et donc, un magnifique livret d'Olivier Py, c'est un opéra fabuleux.
Et c'est Olivier Py qui fera la mise en scène, là, d'ailleurs.
Ah, génial.
Donc, tout se tient, et puis fou de Wagner, habitué de Bayreuth.
Oui, c'est vrai, oui, j'ai eu la chance d'y aller quelques années, quelques étés de suite. Oui.
D'ailleurs, Wagner, Beethoven, vous avez aussi un point commun, la 9e, on en parlait tout à l'heure, vous jouez dans des transcriptions, ou des arrangements plutôt du final de la 9e.
Exactement, là il y a 3 concerts.
Notamment Wagner.
Voilà, 3 concerts lors de la folle journée, avec chœur et soliste, mais l'orchestre est transcrit par Wagner pour piano seul, et donc voilà, c'est aussi une manière de redécouvrir ce final.
Retour aux bagatelles dans un instant, mais d'abord, on en parlait tout à l'heure, un précédent disque, c'était Dutilleux, mais les œuvres de jeunesse. Henri Dutilleux, La fille du diable, une promenade qui finit mal, l'Orchestre national des Pays de la Loire, dirigé par Pascal Roffet, disque Beat Records, comme le disque du Car ou celle qu'on écoutait tout à l'heure. Pascal Roffet en concert à la folle journée de Nantes avec son Orchestre national des Pays de la Loire demain, et vous dirigerez aussi l'Orchestre national de France, cette fois, c'est le 12 février à Présence, concert en direct sur France Musique avec Boulez et la musique de George Benjamin à l'honneur, notamment pour ce concert.
Oui, alors c'est vrai que je suis un petit peu un abonné du Festival Présence, mais parce que d'abord j'aime beaucoup les Phalanges de Radio France avec qui je travaille depuis très longtemps maintenant. Et puis Georges Benjamin est aussi un compagnon de longue date dont je dirigerai Sudden Time, qui est une de ses grandes pièces d'orchestre. Puis il y aura une création de Julian Anderson, un concerto pour violoncelle, qui est également un compositeur anglais que je connais depuis bien longtemps, que j'aime infiniment. Et ce sera Alban Gerhardt qui jouera. Et puis la pièce, mais alors très compliquée, je suis en train de travailler dessus, la figure double prisme de Boulez, où l'orchestre est spatialisé sur scène. C'est une implantation assez compliquée pour la régie de l'orchestre, mais c'est une pièce assez incroyable, comme toujours chez Pierre.
Rendez-vous le 12 février, c'est compliqué, mais tout va bien se passer. Vous, Tanguy de Villancourt, on vous retrouvera également à la Maison de la Radio le 22 mars avec ce fou week-end, si on peut reprendre l'expression, autour des 32 sonates de Beethoven. Vous serez aussi à Tours le 5 février pour un récital Beethoven. On vous retrouvera plus tard, notamment à la Scala à Paris, mais ça c'est Schubert. Et on en reparlera le 28 février pour finir avec ces bagatelles et ce magnifique disque. Peut-être que le mot qui revient, moi qui m'est revenu en écoutant, en réécoutant ce disque, c'est le mot « jeu ». J'ai l'impression que vous jouez, vous amusez.
J'essaye. et c'est des pièces, il faut s'amuser en effet. Il y a quelque chose de très ludique dans ces bagatelles. D'ailleurs, certaines, on les donne régulièrement pour des jeunes élèves. Et il y a quelque chose... Alors, elles ne sont pas à visée purement pédagogique, mais elles ont ce caractère de tendresse et de simplicité qui... Voilà, avec lesquels il faut s'amuser en les jouant, oui.
Et puis je signale, c'est assez rare que c'est vous qui écrivez les textes dans le livret du disque pour chacune des bagatelles où il y a quelques phrases, quelques mots. Et c'est assez touchant ce que vous dites à la fin sur l'opus 126. Il y a quelque chose, c'est la fin de la vie de Beethoven, c'est ses dernières heures. Il y a quelque chose de très simple, une grande humanité.
Oui, complètement. Bah, c'est très intéressant les opus 126 puisqu'elles sont contemporaines de la 9e symphonie justement, donc la 9e symphonie, ce qu'on disait, et la Missa Solemnis, c'est l'infiniment grand, on va dire, puis voilà, c'est opus 126, infiniment petit, et cette conjonction de ces deux univers est magnifique.
Moi je propose qu'on se quitte avec l'une de ces bagatelles, l'opus 126. Et c'est sur cette tendresse infinie que nous quittons, cette bagatelle de l'opus 126 sur le disque de Tanguy de Villancourt, notre invité ce matin avec Pascal Roffet. Merci à tous les deux. Très bonne folle journée puisque vous allez jouer jusqu'à dimanche soir. D'ailleurs, on vous retrouvera, Tanguy, au concert de clôture diffusé en direct sur France Musique à 17h30 et sur Arte. Lundi, nos invités seront un autre pianiste, un certain Adam Laloum et le quatuor Les Enchantés, quatuor de clarinette. Enchanté, c'est un jeu de mots. À la technique, ce matin, Christophe Laurent à Nantes, Stéphane Poitvin et Valentin Bobinet à Paris. C'est Marion Guillemet, Salomé Coq et Margot Muller qui ont préparé cette émission. David Travailleur l'a réalisée. Et la réponse à notre jeu, tout à l'heure, on écoutait un menuet joué par Anne Kefelec, un menuet de Handel. Bravo à nos gagnants qui gagnent le disque de John Adams. Très bonne journée, très bon week-end à lundi.
À réécouter sur francemusique.fr.